Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h40 sur RMC.
RMC. L'interview.
Bonjour Jean-Philippe Tanguy.
Bonjour.
Bienvenue sur dans le studio d'RMC. Merci de venir répondre à mes questions.
Merci
en direct.
Vous
êtes député de la Somme. Vous êtes l'un des nouveaux visages du Rassemblement National. Vous avez 36 ans. Vous avez fait une partie de votre parcours politique avec Nicolas Dupont-Aignan avant de rejoindre Marine Le Pen. Donc vous êtes maintenant en vacances avec tous les autres députés après l'adoption définitive des textes sur le pouvoir d'achat. Quel bilan vous tirez de cette première session parlementaire très médiatisée? C'était aussi votre baptême du feu. Ça a été constructif ou une sorte de bataille de coups de com' dans l'hémicycle?
Bah écoutez, vous avez quand même un peu raison. Il y a eu beaucoup de com' de la part du gouvernement et peu en fait...
De la part des oppositions aussi.
Oui, mais si vous voulez, c'est quand même eux qui sont gouvernement. C'est leur décision à la fin qui impacte la vie des Français. Et contrairement à ce qu'avait annoncé notamment Mme Borne, qui avait pris le temps de consulter avec le président de la République les forces d'opposition, le texte final ressemble malheureusement beaucoup à ce qu'aurait pu présenter Emmanuel Macron avant les élections, même si nous avons eu des victoires notables sur la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, sur une aide au fuel qui n'était pas prévue, et notamment pour des départements ruraux comme le mien, c'est très important. Mais globalement, ces textes sont très insuffisants. Il y a beaucoup d'impasses, notamment l'impasse des salaires, qui est extrêmement peu, voire pas abordé par ce texte et qui reviendra à la rentrée avec un texte qu'on nous déposerons avec Marine Le Pen.
On a du mal justement sur ces mesures à saisir totalement votre positionnement. Vous avez voté pour le premier volet sur le pouvoir d'achat, la loi pouvoir d'achat, et vous êtes abstenu sur le projet de budget hier. Est-ce que ça ne brouille pas un peu le message?
Non, c'est assez simple en fait, c'est qu'il n'y avait pas de ligne rouge dans le premier texte. Il faut être clair, nous ne soutenons pas les mesures prises par Emmanuel Macron, notamment dans le premier paquet. Le fait qu'il ait triplé le plafond de la prime Macron, on n'est pas contre, c'est pas une ligne rouge. S'il y a quelques Français qui profitent d'une meilleure prime qu'avant, tant mieux pour eux. Mais nous ne pensons pas que ça va résoudre le problème du pouvoir d'achat. Mais nous ne souhaitions pas le bloquer, nous ne souhaitions pas faire la politique du pire comme la NUPES.
Ça veut pas dire que vous auriez pu vous abstenir sur les deux, vous avez quand même voté pour.
Non, parce que par exemple, sur le premier texte, il y a la déconjugalisation de l'AAH. Ça dit c'est quoi? Ça veut dire que les personnes en situation de handicap qui sont mariées ne seront plus discriminées si les revenus de leur conjoint ou de leur compagne est supérieur à la limite pour obtenir l'AAH. Donc voter contre un texte, c'est là aussi où c'est pas logique de la part de la gauche. Voter contre un texte, vous votez aussi contre les amendements que vous avez gagnés. C'est ça, il faut comprendre, il y a aussi du droit parlementaire derrière. Donc on pouvait pas s'y opposer. Par contre, dans le texte sur le projet de loi d'initiative, excusez-moi, il y a des lignes rouges. Il y a ce que le gouvernement veut faire avec EDF. 12 milliards d'euros, quand même 12 milliards d'euros, il faut avoir en tête cette somme, qui est consacrée au rachat d'une entreprise que l'État gouverne déjà et que nous pensons il veut démanteler. Il n'a apporté aucune catégorie. Par exemple, le Sénat avait dit le vrai prêt d'EDF, c'est 9 milliards. Donc il y a quand même 3 milliards d'euros que les Français vont payer, qui vont se balader et dépenser.
Ligne rouge, mais vous n'avez pas voté contre non plus.
Non, voilà. Et vous ne votez pas contre. Pourquoi? Parce que si on vote contre, il n'y a pas la revalorisation des pensions de retraite, il n'y a pas la revalorisation des allocations des minimaux sociaux, il n'y a pas un certain nombre de mesures qui sont prises pour les Français. Par exemple, une mesure concrète, la fameuse ristourne de 30 centimes que le gouvernement va mettre en septembre et octobre. Nous pensons que ce n'est pas suffisant, nous pensons que ce n'est pas pérenne, mais on ne va pas s'opposer au fait qu'il y ait cette ristourne. Vous voyez, donc c'est la différence entre une opposition stérile, une opposition qui combat tout sans mesure, et une opposition contre la nôtre qui essaie d'améliorer les textes, mais qui à la fin prend ses responsabilités pour que ça bénéficie au minimum aux Français.
Vous parliez du carburant, il y a aussi la question du gaz. On sait que la rentrée va être difficile sur le plan de l'énergie. Vous dites qu'il faut arrêter les sanctions contre la Russie. Ça veut dire quoi? Il faut continuer d'acheter du gaz russe, du pétrole russe, même si cela finance la guerre en Ukraine et parfois des crimes de guerre?
Non, en fait, il ne faut pas prendre des mesures qui servent le régime de Vladimir Poutine. Ce que nous disons depuis le début, c'est que les mesures qui sont prises sont tellement stupides et inefficaces qu'elles sont contre-productives. Monsieur Le Maire avait annoncé mettre à genoux l'économie russe et le rouble. Le rouble n'a jamais été aussi fort. Les sanctions qui ont été prises ont augmenté les prix internationaux. Or, le prix du pétrole...
À quelles sanctions précisément vous vous opposez?
Pardon ?
À quelles sanctions vous vous opposez? Il faut continuer d'acheter du gaz russe?
Mais déjà, le gaz russe, on continue à en acheter, en fait. Donc, en fait, on fait croire aux Français qu'il y a des sanctions qui sont prises, mais en fait, on continue à acheter du gaz. Enfin, en tout cas, beaucoup de pays européens continuent à acheter du gaz russe à un prix qui a augmenté et qui s'est stabilisé à un niveau historiquement haut. Pourquoi? Parce que comme les marchés entendent qu'il y a des sanctions, les marchés spéculent, les marchés réagissent, et en fait nous payons le prix des sanctions, nous, en Europe, et la Russie, elle, s'enrichit. Donc c'est complètement contre-productif. Hier, d'ailleurs,
enfin,
c'est à l'antenne de BFM TV, hier, on a annoncé qu'il y a record d'importation de gazole. C'est-à-dire que l'Europe n'a jamais autant importé de gazole russe, alors que soi-disant, il y a des sanctions contre le gazole russe. Donc on est dans un régime en fait totalement hypocrite, où les Français, les Européens paient très cher l'enrichissement du régime de Vladimir Poutine, et le régime de Vladimir Poutine va très bien.
Enfin, voilà. Plusieurs études économiques vont pas du tout dans votre sens et disent que les sanctions imposées à Moscou sont en train d'effacer 15 ans de progrès, vont faire que l'économie de russe va se contracter de 15%, que les entreprises qui ont quitté le pays représentent 40% de son PIB. Il y a quand même des effets de ces sanctions qui sont mesurables aujourd'hui, contrairement à ce que le RN dit aujourd'hui.
Non, parce qu'en fait, on se trompe sur l'état de ces sanctions. Vous parlez de l'économie réelle, de l'économie de la consommation, de l'économie du quotidien russe. Bien sûr qu'il y a des effets sur l'accès à certains biens de consommation, sur le niveau de vie des Russes. Mais les fondamentaux du régime russe, c'est-à-dire ses revenus pétro-gaziers, l'état de sa monnaie, sa capacité à exporter ses matières premières, notamment en Asie, au Moyen-Orient, sont non seulement intactes, mais encore plus fortes qu'avant. De la même manière qu'en 2014, quand on a pris des sanctions contre l'agriculture, enfin contre la possibilité pour la Russie d'importer des biens agricoles européens, notamment français, on a donné à la Russie la capacité de développer sa propre agriculture. Ce qui fait que 8 ans après, la Russie est devenue une puissance alimentaire et qu'aujourd'hui, aujourd'hui, elle tient les greniers à blé et à céréales de l'Afrique et du Moyen-Orient. Et ce pouvoir-là, ce pouvoir du régime de Vladimir Poutine, ce sont les sanctions européennes stupides qui l'ont donné.
Donc vous parlez de sanctions stupides, vous.
Mais on a proposé d'autres
sanctions. Ça donne l'impression que vous ménagez la Russie. C'est toujours vous savez, le reproche qu'on vous fait. Ce discours, il va forcément alimenter le soupçon sur les amitiés du RN avec Moscou. Non, le fait que vous
alimente une propagande du gouvernement qui ne dit jamais quelque chose de simple. Nous avons proposé des sanctions alternatives. Les médias ne parlent jamais des sanctions alternatives que nous avons proposées contre le régime de Vladimir Poutine. Nous, on a proposé des sanctions qui effondrent le prix du gaz et du pétrole, les prix internationaux des matières premières que vend la Russie. C'est ça une sanction utile.
Oui, encore faut-il se mettre d'accord avec
d'accord.
Le monde entier.
Non, mais ok, mais dans ce cas-là, il faut dire la vérité aux Français. Si, en fait, on paie des sanctions parce que les autres pays qui vendent du gaz, à savoir le Royaume-Uni, la Norvège, les États-Unis, l'Algérie, le Qatar, ne veulent pas être solidaires avec l'Ukraine, il faut le dire aux Français. Mais il ne faut pas dire que c'est le Rassemblement National qui ne veut pas de sanctions. Ce sont ces pays-là qui ne veulent pas de sanctions utiles. Parce que là, ce qu'on est en train de faire depuis 6 mois maintenant, c'est qu'on est en train d'enrichir le régime de Vladimir Poutine en faisant payer les Français et les Européens. Donc, il y a un moment, on veut bien débattre au bout d'un mois quand les sanctions étaient récentes. Maintenant, ça fait 6 mois, c'est un échec total, contre-productif, exactement ce qui s'est passé en 2014, et on continue, et non seulement on continue, mais on accuse ceux comme Marine Le Pen qui veulent l'indépendance de la France et des pays européens, notamment parce qu'on avait une autre politique pour ne pas être dépendant du gaz russe. On nous accuse de vouloir être favorable à la Russie, alors que c'est ceux qui prétendent lutter contre la Russie qui lui ont donné tous les pouvoirs.
Jean-Philippe Tanguy, je vais changer de sujet parce que le temps tourne. Il n'y aura pas finalement de texte sur l'immigration à la rentrée. Gérald Darmanin l'avait promis, c'est semble-t-il l'Élysée qui lui a imposé de repousser l'examen de ce texte. Il y aura dans un premier temps un débat au Parlement sur cette question. Vous voyez les choses comment? Reculade ou vous saluez la méthode puisque finalement vous serez associé, il y aura un dialogue avec les oppositions?
C'est complètement une reculade, parce qu'il y aurait eu un texte, il y aurait eu un débat parlementaire, on était associés. Hein. On n'a pas besoin d'organiser encore un grand débat. C'est des méthodes qu'on a connues sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, mais la vérité, c'est qu'en fait, ce gouvernement n'est pas prêt. C'est la première fois qu'en septembre, le Parlement ne va pas siéger en session et qu'on va perdre encore un mois. Moi, dans ma circonscription, quand j'ai fait campagne aux législatives, les gens ne comprenaient pas pourquoi le gouvernement ne faisait rien entre l'élection d'Emmanuel Macron et les élections législatives. On a encore perdu un mois ensuite dans des espèces de fausses consultations. Et maintenant, on nous informe que sur la sécurité et l'immigration, on va encore perdre 2 à 3 mois. Donc, c'est complètement surréaliste par rapport à la situation que vivent les Français. C'est totalement incompréhensible.
C'est vraiment l'urgence?
Bien sûr que c'est une urgence, c'est une situation d'insécurité dans le pays qui est très grave. La submersion migratoire n'a jamais été aussi développée. Voilà. Donc il y a des mesures urgentes à prendre. Mais c'est aussi, je pense qu'en fait, il y a une submersion migratoire. Il y a très peu de les OQTF sont toujours aussi peu appliquées. Le nombre de titres de séjour qui est attribué aux étrangers et n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de France. Voilà, il se passe quelque chose qui est très grave.
Les reconduites à la frontière, vous parlez des OQTF, les obligations de quitter le territoire appliqué à hauteur de 30%, dit Gérald Darmanin hier. Comment vous feriez mieux?
Mais il faut forcer les pays qui ne refusent de prendre leurs ressortissants à appliquer le droit international. Car je rappelle que reprendre des ressortissants qui sont en situation irrégulière est une obligation internationale. Donc il y a plusieurs mesures. Vous pouvez tout d'abord couper l'aide au développement des pays qui ne sont pas, qui ne participent pas et qui n'appliquent pas le droit international. Vous pouvez ensuite mettre un embargo sur, vous savez, la monétisation de la diaspora qui envoie beaucoup de fonds dans les pays originaires. Et vous pouvez ensuite prendre.
Le problème, c'est que la plupart du temps, les pays, enfin, lorsque les pays refusent, ils disent nous, on reconnaît pas ce ressortissant, il vient pas de chez nous, on n'a pas de preuve qu'il est algérien, tunisien, marocain ou je ne sais quel autre pays. C'est pas si simple de les forcer. C'est de la diplomatie en réalité.
Non, vous savez, il y a beaucoup de pays qui arrivent, la Suisse y arrive, l'Australie l'a fait en son temps avec une politique extrêmement efficace, qui a notamment limité les infiltrations illégales et donc les personnes aussi qui mouraient en mer entre l'Asie du Sud-Est et l'Australie. Et donc c'est possible quand on le veut. Voilà. Mais en fait, le gouvernement ne le veut pas parce que, vous savez, M. Darmanin a dit, oui, il est contre l'immigration, mais vous avez d'autres gens dans son gouvernement qui vont dire, on a besoin d'immigration pour les emplois agricoles, on a besoin d'immigration pour les emplois dans l'hôtellerie-restauration.
C'est pas vrai.
Vous avez les commissaires européens qui passent leur temps à dire qu'on a besoin de plusieurs millions d'immigration dans les années à venir. Donc en fait, c'est pas vrai. Ils disent aux Français qui sont très inquiets sur la situation migratoire qu'ils vont réagir sur la situation, mais en fait, profondément, le gouvernement français, la technocratie française, la technocratie européenne, elle est pro-immigration.
Marine Le Pen vous a nommé, Jean-Philippe Tanguy, président délégué du groupe à l'Assemblée, avec cette mission d'incarner un renouveau dans le parti, une forme de jeunesse, le sérieux, la crédibilité du parti. Le problème, c'est qu'on le voit bien, vous êtes toujours finalement ramené au passé, à l'histoire du parti, à l'histoire du Front National créé il y a 50 ans. On l'a vu encore cette semaine avec Éric Dupond-Moretti. Vous qui êtes plus jeune, vous qui n'avez pas grandi à l'intérieur du Rassemblement National, puisque vous êtes venu de Debout la France, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez qu'il faut que le parti rompe à un moment et de façon plus claire avec son histoire et avec son passé?
Non mais Marine Le Pen a rompu et établi des positions extrêmement claires en 2014 et 2015. Donc en fait, c'est quand le gouvernement et nos adversaires politiques n'ont rien à dire, ils ressortent des vieilles histoires qui n'intéressent plus personne.
Elle n'a pas rompu avec un certain nombre de personnalités.
Mais non, mais c'est toujours les mêmes gens
qui évoluent toujours autour d'elle.
Mais c'est pas vrai, moi je les ai jamais vus ces gens alors que j'étais directeur adjoint de la campagne présidentielle. Ce sont des espèces d'histoires qui cherchent à faire peur aux Français, qui ne sont pas dupes. Moi je peux vous dire que dans la Somme, on m'a jamais parlé de ces histoires. Tout le monde sait très bien que Marine Le Pen est républicaine, qu'elle combat toute forme de discrimination, qu'elle défend l'universalisme français, les valeurs françaises, et d'ailleurs, c'est l'une des rares personnalités maintenant à le faire. Donc tout ça, c'est du cinéma, ça cherche à mettre une espèce d'égalité entre la NUPES, qui a signé une résolution scandaleuse assimilant la démocratie israélienne à un régime d'apartheid. Donc, comme le gouvernement est bien embêté avec cette gauche qui a voté pour eux, et ben ils essaient de faire croire, en sortant des vieilles histoires, qu'on serait co-responsable.
Enfin, les vieilles histoires, Axel Lousteau, Frédéric Chatillon gravitent toujours autour de Marine Le Pen.
Mais c'est totalement faux. Mais c'est totalement faux.
Vous l'avez jamais croisé.
Soral. Alors, je tiens à vous dire que moi, j'ai deux procès contre Monsieur Soral, tellement on est des adversaires résolus l'un contre l'autre. Voilà. Donc, faut arrêter d'essayer de faire peur aux Français avec des histoires, des trucs d'éléments de langage du gouvernement qui ne reposent sur rien.
Est-ce que Jean-Marie Le Pen doit être invité si vous fêtez les 50 ans du parti?
Non, mais moi, je n'ai pas à donner mon avis là-dessus. C'est la direction du RN qui décidera. J'ai l'impression que ça va pas se faire. Bon, écoutez, je ne comprends pas. Puis, pourquoi toujours cette personnalisation autour de Jean-Marie Le Pen? Marine Le Pen, c'est la seule candidate et c'est la seule femme d'ailleurs politique qui doit sans cesse se justifier propos et des actions de son père.
C'est pas ça qui empêche le Rassemblement national de grimper la dernière marche.
Non, mais excusez-moi, s'il y avait d'autres personnalités, on ne demande pas aux autres personnalités de droite, de gauche, de justifier sur leur père. Même si c'était fait, on dirait que ce serait misogyne, ce qu'il le serait d'ailleurs. Marine Le Pen n'a justifié que sur ce qu'elle a dit, elle, sur la ligne politique qu'elle a défendue, sur les propositions qu'elle a proposées. Voilà. Elle n'a pas à se justifier sur ce qu'a dit son père et qu'on lui a demandé d'ailleurs, elle l'a fait alors que d'autres ne l'auraient pas fait.
Marine Le Pen
la position est extrêmement claire et qu'on juge les gens sur ce qu'ils font et ce qu'ils disent et pas sur des vieux fantasmes qui n'ont plus aucune actualité.
Marine Le Pen qui va passer la main et pour la première fois le parti ne sera plus dirigé par quelqu'un qui s'appelle Le Pen.
Oui, alors on avait dit que c'était pas possible. Hein. On avait dit oui, jamais le parti ne sera dirigé par quelqu'un d'autre qu'un Le Pen. Et bah écoutez,
vous avez fait votre choix vous entre Jordan Bardella et Louis Alliot?
Non, parce que vous savez, nous on a un petit parti gaulliste qui s'appelle l'Avenir Français et donc on va se réunir à la fin de l'été pour prendre nos décisions. Mais tout le monde sait que j'ai des liens d'amitié, de respect, de travail avec Jordan Bardella, donc je vais pas cacher derrière mon petit doigt. Mais on va consulter nos amis de l'Avenir Français.
Merci beaucoup Jean-Philippe Tanguy d'être venu ce matin sur RMC, député RN de la Somme. Et bonnes vacances donc puisque les travaux à l'Assemblée s'arrêtent. 8h54.